Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous recevons Christian Canuyer. Alors vous êtes un habitué de cet Orient chrétien, vous habitez en Belgique, dans une petite ville qui s'appelle Hatte.
Hatte, c'est la cité de Goliath, parce que nous avons un géant processionnel du 15e siècle qui figure le Goliath biblique, figurez-vous.
On vous trouve souvent au Caire, on vous trouve dans la Vallée des Rois ou encore peut-être à explorer les rives du Nil. Vous revenez d'ailleurs d'Égypte, vous nous raconterez un petit peu votre visite à cette grande université El Azhar. Vous êtes professeur d'histoire de l'Église et des Églises orientales à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Vous êtes président de la Société royale belge d'études orientales et égyptologue. Vous êtes enfin spécialiste de l'Église copte, sujet qui nous rassemble ce matin. Alors avant de commencer à vous poser quelques questions sur ce voyage en Égypte qui nous apportera, je pense, des éléments nouveaux pour comprendre la situation actuelle de l'autre côté de la Méditerranée, je voudrais rappeler et faire allusion à un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Chrétien d'Orient, mon amour ». Alors c'était publié par le CSCO de Belgique. Vous pouvez me dire ce que c'est ?
Oui, alors l'initiative en elle-même me paraît assez remarquable parce que je dirige en Belgique Solidarité Orient, qui est un petit peu la petite sœur belge de l'œuvre d'Orient. Nous avons été fondés en 1932. Nous avons acquis notre autonomie en 1984 parce qu'il fallait se profiler de façon plus adéquate, je dirais, au contexte belge. Mais en gros, nous poursuivons le même travail dans la même optique que l'œuvre d'Orient en France. Et souvent, j'en parlais encore récemment avec Mgr Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient, nous déplorons parfois que nos actions en faveur des chrétiens d'Orient concernent et touchent un grand nombre de chrétiens de Belgique ou de France, mais que parfois on sent une certaine frilosité de la part des chrétiens d'Orient en diaspora, qui parfois ne se mobilisent pas comme nous le voudrions pour leurs frères restés au Proche-Orient. Et voilà que ce livre est une initiative, précisément, de chrétiens d'Orient vivant en Belgique, notamment le docteur Simon Najm, qui est engagé dans la politique belge, qui a quitté le Liban lors de la guerre civile pour faire ses études de médecine en Belgique, et qui s'est senti à un moment donné, surtout lorsque les événements se sont précipités, notamment en Irak, s'est senti quelque part coupable de voir tant de Belges, tant de Français s'investir dans la défense des chrétiens d'Orient, alors que les chrétiens de la diaspora ne faisaient pas grand-chose. Et donc il a organisé en Belgique un comité de soutien aux chrétiens d'Orient, mais qui rassemble prioritairement des chrétiens d'Orient, de toute confession, coptes, orthodoxes, protestants également, de toute nationalité d'origine. Et ce comité fonctionne très bien. Ils ont organisé en collaboration avec mon association toute une série de visites sur le terrain, en Irak, en Syrie, en Égypte. Et ils ont eu l'idée de ce livre qui est un peu le reflet de leur action, de leur sensibilité. Et ils y ont convié une quarantaine d'auteurs, de très bons auteurs, dont un certain Sébastien de Courtois, à s'exprimer sur un mode pas académique, plutôt, je dirais, un peu déjanté parfois. Ils s'exprimaient une sensibilité à vif. Je dois vous avouer qu'au début, j'étais un peu perplexe parce que moi, je suis un peu empêtré dans la tradition universitaire et finalement, je trouve que le produit est attachant. Il est il est non convenu, mais il donne lieu à de belles découvertes et à de belles émotions.
Alors, il y a une autre personne à citer qui est Marie Thibault de Mézières. Oui. Voilà, qui a été qui a mis en œuvre, j'ai l'impression, ce dictionnaire.
Oui, c'est au fond un peu l'idée du dictionnaire amoureux.
Dictionnaire amoureux, voilà. Oui. Par ordre alphabétique, évidemment, avec de très belles photos aussi. C'est ça qui est intéressant. Et on en parle parce que, bon, outre le fait que vous avez signé, vous, pour le coup, plusieurs notices ou articles, voilà, c'est un livre vraiment inhabituel. Chrétien d'Orient, mon amour. Les éditions Mardaga, je pense.
Mardaga, voilà. Bruxelles, oui.
Mardaga. À Bruxelles. Voilà. Alors il est en distribution déjà dans le réseau des procures. Donc voilà, et il faut vraiment se le procurer, je pense, parce qu'il complète un petit peu toute cette littérature que je qualifierais de misérabiliste et qui devient un peu lassante, où on voit tout le monde qui donne son avis dès qu'on a fait un petit voyage là-bas.
Et puis il y a des approches toniques et inattendues. Par exemple, il y a un article sur la hack. Ce délicieux breuvage parfumé et un peu alcoolisé, qui est quand même très caractéristique des chrétiens d'Orient, un petit verre d'arak quand on va chez le père Choufani, ou bien un peu partout en Palestine ou au Liban, voilà, l'arak est de rigueur. Je pense à Mahaloula, la grande fête de l'invention de la croix à Mahaloula, quand vous voyez l'évêque du lieu qui est sommé par la population de boire de grandes lampées d'arak à même la gourde, je dirais. Donc voilà, ça va de l'arak à Alep,
au café, un article sur le café,
la hiérarchie, la Turquie, donc ça c'est vous qui avez
on
signé,
voyage, voilà, le Tour Abdin,
oui,
sur les chrétiens, syriaques. Alors vous êtes par contre un spécialiste renommé, universitaire, académicien sur la question des Coptes. Ça, c'est vraiment, vous êtes venu déjà plusieurs fois dans notre émission d'ailleurs pour évoquer ce sujet-là. Mais vous avez signé aussi deux très beaux articles, je dois dire, l'un sur Babylone et l'autre sur les Araméens. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ce nom de Babylone? Alors, vous commencez par citer le psaume, je crois, 137.
Et j'évoque même Bonéem, parce que vous vous souvenez de cette chanson qui a bercé nos années 70.
Donc, rappelez-nous les premiers.
By the River of Babylon. Vous connaissez cette. Donc, en fait, c'est une reprise du psaume. Ben, parce que Babylone, évidemment, c'est un nom qui résonne dans la Bible. C'est évidemment, d'une part, la référence à Nabucodonosor, à l'exil du peuple juif au bord de l'Euphrate. C'est aussi, dans le Nouveau Testament, Babylone est devenue l'image de la Rome persécutrice, de la Rome hostile aux chrétiens. Mais il ne faut pas oublier que c'est à Babylone qu'une bonne partie du judaïsme tel qu'il vit aujourd'hui, le judaïsme rabbinique, le judaïsme talmudique, le Talmud, le principal Talmud, a été forgé en Mésopotamie, à Babylone. Et c'est dans cette judaïté babylonienne que s'enracine la chrétienté mésopotamienne. L'église de l'Orient, l'église dite autrefois nestorienne, mais encore aujourd'hui la plus importante des églises d'Irak, l'église chaldéenne, son chef, le patriarche Sacco, porte le titre de patriarche de Babylone des Chaldéens. Donc Babylone, c'est évidemment un nom profondément lié à l'histoire des chrétiens.
Et un autre mot qui a une puissance d'évocation étonnante, c'est le mot araméen. Mon père était un araméen errant,
voilà.
Peut-on lire dans le Deutéronome?
Mais oui, parce que les Araméens, vous savez que c'est un peuple qui apparaît vers le début du premier millénaire avant notre ère, et qui va marquer de son empreinte toute l'histoire du Proche-Orient, à telle enseigne que la langue araméenne va devenir la langue véhiculaire à l'époque perse, dans l'Empire perse. C'est l'araméen qui est devenu l'anglais, la langue de la mondialisation de cette époque, parce que les empereurs achéménides l'avaient choisi comme lingua franca, et rappelons-le, dans la vie de tous les jours, Jésus parlait l'araméen, il ne parlait l'hébreu qu'à la synagogue, mais Jésus était un araméen, un araméophone.
Alors Christian Canuyer, je vois que vous êtes quand même assez prudent, parce que vous mettez araméen au pluriel, vous parlez d'une variété d'araméens.
Voilà. Oui, parce que l'araméen étant une langue de grande diffusion internationale, il s'est décliné en une infinité de dialectes, et parmi ces dialectes, il y en a un qui a été promu à un avenir littéraire extraordinaire, c'est le syriaque. Le syriaque, c'est le dialecte araméen de la ville d'Édesse, Sanyurfa, Urfa, aujourd'hui en Turquie, mais c'est devenu la langue liturgique de quantité d'églises, maronites, syriaques, même au fond l'église melkite à l'origine était de tradition syriaque avant qu'elle ne s'hellénise au Moyen-Âge. Les chrétiens du Kerala, de Saint-Thomas, utilisent le syriaque.
On avait reçu un prêtre originaire justement de ces églises du Kerala il y a quelques semaines. Une dernière petite mention sur un article qui m'a particulièrement intéressé, celui sur la Jordanie. Quel petit royaume étrange.
Voilà, c'est un royaume dont on ne donnait pas cher lorsqu'il a été artificiellement créé par les Britanniques par manière de compensation pour la dynastie hachémite qu'on avait au fond délogé d'Arabie pour y favoriser la montée en puissance des Al-Saoud. Et donc cet émirat de Transjordanie, qui était un désert, ben vraiment, il était bien malaisé de lui prédire un avenir florissant. Et pourtant, la dynastie en place a joué de prudence, elle a bien mené sa barque, et finalement, c'est un des pays les plus stables du Proche-Orient, et c'est aujourd'hui le pays où tous les chrétiens peuvent se retrouver sans problème. Régulièrement, il y a des colloques, il y a des symposiums organisés notamment par la famille hachémite, et c'est le seul pays pratiquement où, par exemple, un Syrien peut évidemment rencontrer un Libanais ou un Égyptien à Amman, ce qui n'est pas possible à Jérusalem, évidemment. Donc c'est un lieu inattendu de rencontre pour tous les chrétiens. Maintenant, il ne faut pas idéaliser, c'est aussi un pays précaire, c'est un pays fragile, et où comme ailleurs, la montée en puissance de l'islamisme représente un facteur de déstabilisation et d'incertitude pour quand même la communauté chrétienne.
Et protégé peut-être parce qu'il n'y a pas de ressources naturelles.
Voilà, oui, c'est peut-être une des chances de la Jordanie, c'est de ne pas avoir été riche de son sous-sol, contrairement à d'autres pays qui ont attisé bien plus de convoitises.
Nous sommes dans Chrétiens d'Orient ce matin, je suis avec Christian Canuyer, nous évoquons sur la base d'un livre qui s'appelle Chrétiens d'Orient, mon amour, mais on va dépasser bien entendu ce contexte-là pour parler un petit peu de l'Égypte maintenant. Alors vous avez été invité au mois d'octobre dernier, je crois bien à l'université El Azhar, donc cette grande université qui est dans la banlieue du Caire, je crois.
Qui est au cœur du Caire.
Au cœur du Caire, d'accord.
Mais qui a une implantation à Médinette Nasr, donc une des villes neuves créées, voilà,
à la périphérie du Caire. 500 000 étudiants, d'après ce que
j'ai compris. D'abord, c'est une des trois plus anciennes universités mosquées du monde musulman, avec celle de Tunis et celle de Fès, Al-Qarawin. Elle a été créée à l'époque fatimide. À l'origine, c'est une université chiite qui avait été créé pour la diffusion de la foi chiite dans l'Égypte fatimide. Et puis, lorsque les fatimides ont été chassés d'Égypte, je rappelle, les fatimides, c'était une dynastie chiite, mais qui gouvernait l'Égypte majoritairement sunnite. Ensuite, l'université Al-Azhar a été sunnitisée, et aujourd'hui, elle représente certainement un des grands pôles de référence de l'islam sunnite. Et en Égypte même, dans ses diverses implantations, elle compte 500 000 étudiants universitaires, dont de nombreux étrangers venus des quatre coins du monde musulman. Et alors, elle a aussi un réseau d'écoles primaires et d'écoles secondaires qui scolarisent environ 2 millions d'étudiants en Égypte.
Alors, elle a à sa tête le cher Al-Tayeb, quelqu'un qui me semble plutôt ouvert, si on regarde avec attention ses dernières déclarations, quelqu'un qui vient de la tradition de l'islam soufi et qui apparaît peut-être comme un possible interlocuteur ou quelqu'un qui est apprécié des Occidentaux, mais j'espère aussi des Égyptiens, ou dans quel sens faut-il le prendre?
C'est-à-dire que, vous savez que l'islam institutionnel est en crise dans le monde musulman parce que souvent il s'est compromis avec les pouvoirs politiques répressifs et prédateurs. Et donc cet islam des oulémas est mal vu de l'homme de la rue souvent. Et un peu comme chez nous, ce qui est prédominant en Égypte maintenant, c'est ce que j'appelle l'islam des garages, c'est-à-dire l'islam un peu sauvage, qui lui est quand même très tenté par les sirènes du salafisme ou du wahhabisme. Et incontestablement, depuis la révolution de 2011 en Égypte, les oulémas et Al-Azhar veut reprendre en main la situation, veut se présenter comme une vitrine et un ferment crédible de l'islam égyptien. Et le colloque auquel j'ai participé a un peu pour but de permettre à Al-Azhar de se poser comme instance magistérielle, instance de référence dans le monde musulman. Et ça, c'est vrai que l'Occident et les églises sont demandeurs. Pourquoi ? Parce que souvent ce qu'on déplore avec l'islam, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur. On ne sait pas à qui s'adresser lorsque l'on veut parler à l'islam. Et Al-Azhar voudrait jouer ce rôle-là. Malheureusement, c'est un peu une prétention qui est en porte-à-faux par rapport à la tradition. parce que la tradition sunnite, c'est que l'autorité, elle est éparpillée, elle est éclatée. Il n'y a pas dans la tradition sunnite, même le califat n'était pas cela. Le califat, d'ailleurs, quand il a été supprimé en 1923, n'était plus qu'une coquille vide au fond. Et le califat n'a jamais joué le rôle d'un Vatican musulman. Ce que voudrait un peu jouer aujourd'hui El-Azhar pour lutter contre l'islam radical, pour ouvrir l'islam à la modernité, faire un aggiornamento en quelque sorte de l'islam. Et pour ça, il faudrait un Vatican II de l'islam, mais quelque part, il faudrait un pape. Et El-Tayeb se verrait bien dans la position du pape de l'islam.
Alors il y a un autre personnage copte de cette Égypte, enfin copte veut dire lui-même égyptien, voilà, tous les Égyptiens sont des coptes par définition. Nous avions reçu le père Stéphanos il y a quelques semaines sur qui représente l'Égypte copte en France. On a bien compris que la présence de la tutelle du pape Tawadoros, qui est cet immense personnage de la vie politique, de la vie religieuse en Égypte, compte beaucoup. Quelles sont les relations entre justement cet islam sunnite représenté par le cher El-Tayeb? Est-ce qu'il y a un dialogue religieux? Est-ce que ça se passe plutôt bien? Est-ce que dans le contexte actuel?
Il faut donc distinguer, parce que El-Tayeb, au sein de l'université El-Azhar, représente un courant, je n'aime pas l'expression islam modéré, parce que on n'est pas modérément musulman, on n'est pas modérément chrétien, on est musulman, on est chrétien, mais un islam ouvert sur la pluralité, un islam qui connaît son histoire et qui sait que cette histoire, elle est faite de contrastes et non pas d'homogénéité. Et le projet du pape Tawadros II est semblable. L'église copte s'est caractérisée très longtemps par un conservatisme théologique, quand même un petit peu anesthésiant. Et Tawadros II veut ouvrir le monde copte à la modernité, à la critique biblique par exemple, à l'écuménisme. Hein, il entretient de très bonnes relations avec le pape François. Et El-Tayeb à El-Azhar, comme Tawadros II au sein de l'église copte, sont confrontés quand même à une opposition sévère d'un côté d'évêques, de l'autre côté d'oulémas, qui eux sont beaucoup plus conservateurs et freinent des quatre fers et ne veulent pas entendre parler de cette ouverture. Je dis volontiers qu'il y a analogie entre la position du pape François dans l'Église catholique actuellement, qui est confrontée à une fronde conservatrice violente, la position d'At-Tayeb au sommet des Lazars et la position de Tawadros II.
Alors sans caricaturer, bien entendu, Christian Canuyer, quand on est à la place d'un petit paysan du sud de l'Égypte qui est confronté à cette violence islamiste quotidienne, on peut pas tellement leur demander de s'ouvrir aux autres. Ou est-ce que c'est pas une question de milieu social peut-être,
de place
dans la société ou pas?
Ce qui caractérise le peuple copte par rapport aux autres chrétiens d'Orient, c'est que en Égypte, vraiment, la population chrétienne, ça concerne tout le spectre de la société égyptienne, y compris ces pauvres fellahs du Nil, y compris les chiffonniers du Caire. C'est-à-dire que vous avez là un christianisme très rural, mais il faut bien le dire, très peu éduqué, très peu à même d'avoir un regard critique sur sa tradition religieuse et sur sa relation avec l'islam. Et malheureusement, le régime politique et l'Église ont parfois instrumentalisé cette inculture pour nourrir des réflexes identitaires de fermeture et, en quelque sorte aussi, nourrir la confrontation plutôt que le dialogue. Ce dont le Proche-Orient a majoritairement besoin aujourd'hui, c'est de l'éducation. Mais c'est surtout vrai en Égypte. On a, je pense, en Égypte, un islam et un christianisme fort peu ouverts par manque d'éducation, par manque de connaissance de son histoire, par manque de connaissance de sa théologie. Les musulmans ne connaissent pas l'islam. Les chrétiens ne connaissent pas vraiment non plus le christianisme. On a des religions très ritualisées et très manipulées par le politique ou par l'institutionnel. Et ça crée alors ce climat de tension. Ben, quand vous rentrez dans une école copte traditionnelle, ils envoient tous les musulmans au feu de l'enfer. Et quand vous rentrez dans une école musulmane, ils envoient les chrétiens au feu de l'enfer. L'impossibilité pour les uns comme pour les autres d'être sauvés. Comment voulez-vous construire une société avec des paramètres semblables?
L'Égypte, la Syrie, ce sont vraiment les deux points importants de ce Proche-Orient.
Le Liban quand même aussi.
Le Liban. Mais l'Égypte, c'était peut-être plus. Alors,
l'Égypte, moi je prétends
quand même que les
l'Égypte,
autres.
C'est l'avenir du christianisme en Orient. Mmh. C'est le pays d'Orient où il y a le plus de chrétiens. Mmh. L'Égypte atteint maintenant 100 millions d'habitants, vous imaginez. 1 million d'habitants supplémentaires tous les 6 mois. Et les chrétiens sont, allez, on va dire un petit 10%. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, plusieurs millions. Il y a plus de Coptes que de Danois. Les Coptes, c'est un grand peuple. C'est le grand peuple chrétien du Proche-Orient. Partout ailleurs, en nombre absolu, malgré tout, la chrétienté orientale, ou en tout cas en termes de proportion, la chrétienté orientale diminue. En Égypte, on a là un peuple très important et qui émigre moins qu'ailleurs. Parce que beaucoup de Coptes n'ont pas la possibilité d'émigrer. Ce sont de pauvres paysans, ils appartiennent aux classes les plus défavorisées de la société. Il y a aussi des Coptes très riches, hein, mais c'est un peuple qui est vraiment enraciné dans la glaise du Nil et qui restera égyptien.
J'ai eu l'impression, Christian Canuyer, que quand vous parliez tout à l'heure de cette jeunesse égyptienne qui avait un abandon et un désintérêt de la religion, est-ce marginal ou est-ce
ça... Le coptologue que je suis aime bien rappeler la phrase d'Hérodote: de tous les peuples de la terre, les Égyptiens sont les plus religieux. Je l'ai dit et redit parce que ça me semblait une évidence. Ça l'est moins. Ça le devient de moins en moins. Et au Caire, en tout cas, énormément de jeunes musulmans, mais aussi de jeunes chrétiens, épouvantés par la violence que génère la religion, eh bien, se distancient de celle-ci et virent dans un certain indifférentisme ou même un certain athéisme. C'est d'ailleurs pas tout à fait propre à l'Égypte. On me dit qu'en Irak, qu'en Iran, certainement aussi en Palestine, d'une certaine manière, le phénomène s'observe. À force d'être génératrice de violence, les religions écartent un certain nombre de jeunes, et d'ailleurs de moins jeunes aussi, de leur champ. Oui, donc ça c'est vraiment une nouveauté. Tant les églises que la mosquée savent cela. Ils sentent que tout pourrait vaciller demain. Que la modernité, dans ce qu'elle peut avoir de délétère pour le phénomène religieux, est quand même aux portes du Proche-Orient aussi. Et je pense d'ailleurs que le colloque auquel j'ai assisté a cela également dans sa perspective. C'est d'essayer de rendre davantage l'islam crédible aux yeux de tous ces jeunes Égyptiens qui sont ouverts sur Internet, qui sont ouverts sur les médias internationaux, qui connaissent les critiques occidentales, n'est-ce pas, de la religion, et qui sont tentés de les épouser.
Avec Christian Canuyer ce matin autour d'un livre, Chrétien d'Orient, Mon amour, aux éditions Mardaga, un livre vraiment que nous recommandons tous les deux très chaleureusement. Christian, merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous retrouvons maintenant le service protestant. Je remercie Dany Journeau, Claire Poinzignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Bon dimanche.